France Culture.
Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Des nouvelles de l'arrière ce samedi dans Plan large avec Skandar Kopti et Katerina Gornostai et aussi Sandra Onana. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan large. Il y a les images spectaculaires, cataclysmiques et simplistes des destructions sur les lignes de front qui abreuvent les petits écrans des journaux télévisés et des réseaux sociaux. Et puis, il y a la complexité, l'infinie richesse de la vie à l'arrière que seul sans doute le cinéma permet de comprendre et de nous faire ressentir. Nos deux invités de ce jour en ont fait le pari. Du premier, on avait déjà beaucoup aimé, il y a plus de 15 ans, un polar nerveux et très noir qu'il avait co-signé avec Yaron Chani dans un quartier pluriethnique de Jaffa, c'était le formidable Adjami. Skandar Kopti revient seul cette fois pour un film cubiste qui réfléchit une fois encore à la difficulté, voire l'impossibilité de voir cohabiter, pour ne pas dire s'aimer, sur une petite portion de territoire, des populations pourtant soumises au même système oppressif, surtout quand on est une jeune femme palestinienne qui plus est. Mais tournée avant le 7 octobre 2023, ces chroniques d'Haïfa n'en éclairent pas moins la catastrophe en cours. Skandar Kopti nous dira dans un instant comment. Face à lui, une jeune cinéaste ukrainienne dont là encore on avait beaucoup aimé le premier film de fiction tourné lui aussi juste avant l'invasion de son pays par la Russie. C'était il y a 3 ans, Jeunesse en sursis, un titre devenu depuis prémonitoire. À la jeunesse et à ses premières amours documentaires, Katerina Gornostai revient avec un film qu'on avait découvert en compétition à la dernière Berlinale. Il s'appelle Première classe et livre un portrait composite et lumineux de l'enfance et de la jeunesse ukrainienne à l'école et plus ou moins loin du front. Nous l'entendrons tout à l'heure, d'autant que les deux films qui nous occupent aujourd'hui partagent de curieuses similarités, voire des scènes en commun. En fin d'émission, Sandra Onana, à peine revenue des tranchées vénitiennes, où s'affronte comme jamais pour le Lion d'Or la fine fleur du cinéma mondial. Sandra Onana donc dressera un état des forces en présence à la Mostra de Venise qui s'achève ce soir. Mais pour l'heure, il est encore temps de trinquer et de se réjouir d'heureux événements.
Cheers.
Inshallah. Inshallah.
Arriba,
inshallah. Inshallah. Yalla, bsahatkom.
Sakartna, ya khi.
Saha, ma yesbari. Ana bas baqul saha, bashrabish. Yani set.
Bas kif dakhlas al-kar?
Bas hada ish fahmo ana. Ando nikuz.
Ba fahmo hik, ba lil.
Fi nas infarfha hon. Awwal harf min ismha Fifi.
أربعة هادون أربعة هادون الشمس ليش لفيفة من بيتنا؟
آه عن جد؟
والله ليش ما تعرف؟
ليش وعرفك يعني؟
هي أنا سبقتني
آه سبقتك
هذا ذوق هاني
يا أنا دراجة بالأمين الثاني بس عشان سجلنا الليلة فاتح معها بتشير
هذا أبو نصيب
جابه أنا أروح أجيب الأمين الثاني
بونجور سكندر كوبتي Une famille très ordinaire de la bourgeoisie palestinienne d'Haïfa, c'est celle qu'on vient d'entendre, Haïfa en Israël, je précise. On se réjouit du mariage proche de la fille aînée, on trinque à d'autres mariages peut-être à venir, espérant notamment que la petite dernière Fifi se case bientôt. Skandar Kopti, vous êtes né à Jaffa il y a 50 ans, vous êtes donc un Palestinien d'Israël ou un citoyen arabe d'Israël, selon la terminologie officielle. En quoi, je suis assez curieux de le savoir, cette famille ressemble à celle dans laquelle vous êtes né, Skandar Kopti?
D'abord, merci de m'avoir invité. Elle ne se ressemble pas. Je viens de Jaffa. Mon premier film était sur les classes sociales que je connaissais. Je voulais envie de faire un film sur les forces que l'on voit à l'œuvre dans le film. J'avais envie de me déconnecter des classes socio-économiques. Je sais que cette bourgeoisie existe Haïfa. Et c'était important pour moi de me déconnecter et de créer cette sorte de misérabilisme des pauvres. Ils sont pauvres, ils sont en retard. J'avais envie d'être plus critique sur toutes les classes.
Alors, vous avez une formation d'ingénieur au départ. Vous regardez comment fonctionnent les machines, quelles sont les logiques à l'œuvre. Est-ce que cette formation, précisément, vous a amené à développer une méthode de travail pour observer la société avant d'en faire un film?
I don't think that studying engineering helped.
J'ai pas l'impression que d'être ingénieur vous donne un talent particulier. Mais il y a quelque chose de plus important encore que le talent, c'est qu'est-ce que c'est que le succès? Et ça, c'est valable pour tous les artistes. Il y a beaucoup de forces partout qui vous poussent, qui vous tirent vers différentes conceptions de ce que c'est que le succès. Ça peut être les tapis rouges, les récompenses.
And I think
ça peut être
my 4 years of training as an engineer helped me a lot to get rid of this and
be oriented
towards an objective. And my objective,
et m'orienter vers un objectif,
is what I want to convey to my audiences,
c'est-à-dire ce que je veux dire à mon public, aussi bien palestiniens qu'israéliens.
This is probably how it helped.
Et c'est en cela que ça a aidé peut-être.
Votre film en français s'appelle Chronique d'Haïfa. Il porte un titre arabe, Yinad Alaïkou, je crois. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que signifie ce titre et en quoi il nous informe précisément sur comment échapper aux forces en présence?
Yinad Alaïkou is how you congratulate people.
C'est une façon de saluer les gens, de les féliciter.
It's literally means,
littéralement, ça veut dire que ceci se répète pour toi.
So birthday,
par
so
exemple, un anniversaire, on dit ça, et c'est qu'il y ait pour toi beaucoup de nouveaux et d'autres anniversaires. Mais j'utilise un peu de façon satirique dans le film.
Because also traditions,
parce que les traditions, ces traditions qui se répètent, donc, et le titre lui-même, quelque part, apparaît dans le film à un moment très particulier, qui n'est pas au début, comme la plupart des films. C'est quand nous commençons à répéter une des histoires, mais cette fois-ci du point de vue de Fifi.
Oui, précisément, je disais que c'était un film cubiste. Votre film est découpé en 4 chapitres, je vais en donner les titres. L'histoire singulière de Rami et du bébé, Anan réussit l'entremise parfaite, l'histoire pas si singulière de Shirley et de son bébé, et l'entremise est moins bien réussie pour Fifi. Les chapitres, on l'entend, se répondent l'un à l'autre. Chaque chapitre est un peu le hors-champ ou le contre-champ du chapitre précédent. À chaque fois, ça nous fait évidemment comprendre différemment. Pourquoi est-ce que c'était important de structurer ainsi votre film, histoire de nous apprendre peut-être qu'il ne faut pas juger trop précipitamment Skandar Kopti?
J'ai commencé à écrire le scénario, je me suis rendu compte qu'il y avait un risque. Celui que le public divise les personnages entre les bons et les mauvais. Les protagonistes, les antagonistes. Ça, je ne voulais pas de ça. La seule façon, c'était de raconter l'histoire de 4 protagonistes. Comment est-ce qu'on raconte une histoire de 4? Il faut suivre le personnage pendant un certain temps. Où là, vous vous rapprochez de lui, vous vous engagez, vous rentrez en empathie avec le personnage. Et il devient votre protagoniste, par définition. Et puis, peut arriver quelque chose d'horrible, c'est que vous n'êtes pas d'accord avec ce personnage. Et là, ça crée une sorte de dissonance. Vous vous dites, ah mince, mais j'aime ce personnage, mais il fait quelque chose qui va contre mes valeurs. Et là, nous allons aller vers un autre personnage, qui aussi va nous montrer à quel point nous sommes juges, selon nos valeurs, dont nous héritons pour beaucoup de façons. C'est la seule façon pour moi de ne pas manipuler, de ne pas être le prêcheur envers mon public sur ces sujets-là.
Mais de fait, les personnages sont tous très complexes. Ils ont tous leur part d'ombre et de lumière, de mensonges, de vérité. Mais ils ont tous une bonne raison d'agir comme ils le font. Les mères peuvent être monstrueuses, mais elles sont, comme chez Renoir, bah, elles ont toujours leur raison d'agir, quoi, comme elles le font.
Yes, absolutely. You know, the mothers are not bad.
Les mères, elles ne sont pas mauvaises. What they're doing out of love. Elles font cela par amour, elles comprennent que la société dans laquelle on vit est très stricte et quelque part, il y a ce système de punition qui existe. Et puis, ces mères ne veulent pas que leurs filles soient punies, donc elles veulent les mettre sur le bon chemin, pense-t-elle. Il y a une autre raison aussi de cette oppression. Parce que pour pas se convaincre qu'on a une bonne vie, on normalise sa propre vie. Et ses propres valeurs. Et vous vous battez pour ces valeurs, pour plein de raisons. Il y a des personnages que l'on voit ici qui veulent se convaincre qu'elles ont une bonne vie, ces femmes, et qu'elles veulent transmettre cette bonne vie à leurs filles. Et disons que ce que dit Fifi, ça va sans doute changer beaucoup de choses dans la famille, changer le mariage de sa sœur. Et dans tout ce jeu-là, tout le monde va perdre. Donc, ce n'est pas une question de la nature des valeurs, c'est la nature de ce qu'elles vont faire.
מדינת ישראל, בואו ככה נכוון אתכם.
פילוגים.
פילוגים. פילוגים בחברה, זה מפחיד אותך? אוקיי. עוד דברים.
אנחנו לא בהכרח הצד הצודק.
שאנחנו לא הצד הצודק. דברים יותר גדולים אולי. ריבים. ריבים. ריבים זה מפחיד. עוד דברים רלוונטיים.
מלחמות.
או, מלחמות. מלחמה. סתם איזה ריב שזה יכול לעורר בנו?
פחד.
פחד. לחץ.
חרדה.
חרדה, נכון. בלבול. בלבול. ובעצם, לרוב מצב חירום יקרה בזמן שאנחנו לא מוכנים אליו בהכרח. מה קרה פה?
שריפה.
שריפה, אוקיי. בתמונה הבאה, מה קרה?
אולי
רעידת אדמה. אוקיי, אני אגיד לכם סוד, כל התמונות שראיתם עד עכשיו, זה בעצם קרה על ידי טיל.
מה קורה? יש תרגיל טילים. קדימה, לבוא. תסתכלי עליי. איך קוראים לך?
אורי.
אורי, יש עכשיו תרגיל. את קמה ובאיתי עכשיו. אין פה...
זה לא משנה.
מה לא משנה?
רציתי שתהילי פה, לא אכפת לי.
Si ça ne parlait pas hébreu, on pourrait déjà être dans le film de Katerina Gornostai. On a une soldate en uniforme qui, dans un lycée, vient parler aux élèves de la situation politique et géopolitique. Et puis, alerte aérienne, bombardement, ça encore, on l'entend dans le film de Katerina Gornostai, qui pousse tout le monde, ou presque, on va y revenir, à se mettre à l'abri. Il fallait filmer des deux côtés pour que votre film soit complet, Skandarkopti.
Yes, absolutely. I don't think you can disconnect the life of Palestinians.
On peut pas séparer la vie des Palestiniens en Israël des Israéliens. On peut pas raconter la moindre histoire en écartant la dynamique des relations entre les deux. C'était très précieux pour moi, très important pour moi de montrer ça et de souligner ces problèmes. Comment les gens acceptent? Comment l'endoctrination fonctionne? Et on voit de l'amour, de l'attention, et on le voit effectivement dans cette école maternelle. Et puis on voit la peur. Et à partir du moment où vous imposez la peur, vous pouvez contrôler les gens. Et là, c'est un exercice, simplement qui doit se faire tous les ans. Les soldats entrent dans l'école et doivent convaincre les enfants que la plus grande peur qu'il faut avoir, c'est la peur de la guerre.
La plus grande peur, elle dit, cette soldate, nous ne sommes pas préparés aux situations d'urgence. Et on ne peut pas s'empêcher, en voyant votre film, de se dire que certes, il a été tourné avant le 7 octobre 2023, mais il y a la prescience tout de même qu'il va se passer quelque chose. Si on reproche à une femme juive de faire un bébé avec un arabe, donc un bébé qui sera à moitié arabe, c'est vu ce qu'il risque d'arriver dans le pays.
Absolutely, I think yes. Obviously, the film was filmed before the genocide.
Clairement, bon, le film a été tourné avant le génocide, tourné en 2022.
Why the genocide is accepted.
Mais il montre pourquoi le génocide aujourd'hui est accepté.
And I think this fear that I spoke
et moi, je crois
about
que cette peur dont je parle, mélangée aux médias,
a propaganda machine,
à cette machine de propagande,
of who is the victim here, is that allows what is
eh bien, ça montre, voilà, qui est la victime aujourd'hui, voilà, on en est là.
The film is very, very relevant. Also
le film, il me semble, est très juste aujourd'hui. Et il montre que les gens sont bons, ils aiment leur famille, ils aiment leur vie, ils veulent avoir une vie correcte, mais ils sont coincés dans un système de corruption et de corruption morale, et qui, quelque part, les enferme et les empêche de trouver autre chose.
Mais de fait, le film est assez pessimiste sur la capacité des différentes communautés à cohabiter à l'intérieur d'Israël. Haïfa est une sorte de précipité de cette question-là. On imagine combien c'est évidemment encore plus difficile depuis un an et demi. Ce que vous mettez en lumière, ce sont aussi des forces souterraines des deux côtés qui conspirent contre cette cohabitation et en particulier contre un métissage qui est vu des deux côtés comme une menace existentielle. Skander Kopti.
Yes, I think this is the basic ideology of, you know, Zionism, which
c'est l'idéologie de base du sionisme.
It's a supremacist ideology.
C'est une essence suprémaciste.
Of, people,
le peuple élu
has the right to
qui a le droit de coloniser
another country coming from
un autre
Europe,
pays,
planning it, you know, with other forces,
et organiser ça avec des forces, avec l'Empire britannique, 750,000 Palestiniens,
raising 500 villages.
La façon qu'il y a eu d'éradiquer 500 villages, c'est une dynamique de la peur. En particulier parce que ça ne s'arrête pas. Nakba, ça a pas, c'est pas que 1948. Ça fait 70 ans. Il y a des massacres tout le temps depuis, jusqu'à Gaza récemment. Aujourd'hui, la situation, elle est impossible dans le pays. On a tous entendu parler des étudiants qui ont été sortis et virés de l'université. Beaucoup de gens ont perdu leur travail simplement parce qu'ils ont posté quelque chose sur les médias sociaux. Le droit de manifester est menacé. Les gens ont peur. Ils ont même peur d'écrire ce qu'ils pensent sur les réseaux sociaux. Et plus il y a de peur, plus il y a de ségrégation. Les gens doivent choisir quand même leur combat. Il faut travailler, il faut bien vivre, il faut bien payer ses factures. Et pour que ça marche, il faut mentir. Fifi, dans le film, quand la prof lui demande d'écrire cette lettre pour le soldat, elle devrait dire non. Je ne veux pas faire partie de votre endoctrinement, vraiment pas question. Ce serait aller contre mon peuple. Mais elle ne fait pas. Elle reste muette. Et c'est ça la situation, c'est le silence.
Alors, vu ce que vous nous racontez à ce micro, Skander Kopti, vu votre film, on imagine que ce n'est pas évident de le tourner officiellement en Israël. Comment est-ce que vous avez pu tourner un tel film, même si là encore ça a été tourné avant le 7 octobre, il y avait déjà un certain contrôle, j'imagine, sur ce qu'on peut tourner ou pas officiellement en Israël.
Yes, I think we were lucky in a way because we had to deal with a bigger problem.
Parce que on avait un très gros problème. On avait le Covid. Et tout le monde était préoccupé. C'était ça qu'il fallait contrôler. On était questionné là-dessus, on était contrôlé là-dessus. Et donc, quelque part, c'était plus facile. Et vous savez, je travaille avec des vrais gens, des non-professionnels. Et on a filmé dans le Hava, cette organisation, quand ils partent ensemble avec Fifi. Il y a des gens qui vraiment interdisent les Arabes d'aller manger dans un restaurant. C'est quelque chose qui existe. Et ils sont en fait très fiers de ça. Ils ne veulent pas qu'on en parle.
Donc, quelque part, c'est une perspective pour ces gens de pouvoir avoir leurs propos montrés dans un film. J'ai demandé à l'école d'avoir l'autorisation de filmer cette scène documentaire. Et ce n'est pas quelque chose... Ils m'ont dit, c'est super, ils n'étaient pas contre. Les enfants qui dessinent et qui font des fleurs et qui donnent des fleurs aux soldats, c'était très positif pour eux. Une question d'empathie, de solidarité. Préparer les enfants à devenir des soldats. Ils n'ont rien vu de négatif. Et donc, c'est pour ça que ça a été finalement facile à filmer.
Vous parlez de la dimension documentaire de ce film, de filmer des enfants. Vous avez un documentaire en ce moment, en cours, sur les enfants palestiniens, sur leurs arrestations. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, Radar Kopti?
Yes, when we stopped filming Happy Holidays in 2020 because of COVID.
En 2020, quand on a fini de tourner Happy Holidays, j'ai commencé à travailler sur un documentaire sur l'enfance. Un documentaire fait avec des images que j'ai tournées avec mon téléphone portable et puis des témoignages d'enfants. Et ça parle de la Cisjordanie, des confinements et des effets psychologiques que tout cela a sur les enfants. La grande question pour moi, c'était... Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est quelque chose qui est valable aujourd'hui? Je travaille avec des enfants. Je travaille avec des enfants, au moins ils sont en vie, alors que nous avons des milliers de morts à côté. Mais oui, c'est complètement le sujet. Depuis le 7 octobre, l'histoire, elle n'a pas commencé à ce moment-là. Elle vient d'il y a très longtemps. Et donc, c'est la force là que je trouve là la force de faire ce film. Mais il y a des questions plus importantes encore. Des intellectuels ou des gens de la rue, des artistes, ils se demandent, est-ce que nous sommes à notre place dans ce grand jeu qui nous dépasse? La plupart des organisations internationales parlent de génocide, et même certains pays, et même des sénateurs aux États-Unis. Ils soulignent ce qui se passe. Donc voilà mon combat aujourd'hui, en travaillant avec ces images qui ne sont pas directement liées aux événements.
Merci Skander Kopti, chronique d'Haïfa, histoire palestinienne, donc Happy Holidays en anglais, c'est en salle depuis mercredi. Merci beaucoup à Harold Manning d'avoir traduit vos propos. Vous écoutez France Culture Plan Large et vous restez avec nous, Skander Kopti, puisqu'on parlait d'enfants à l'instant et que cette semaine c'était la rentrée des classes, on vous ramène à l'école.
Ми з вами не чіпаємо інші предмети, якщо ми побачимо з вами на підлозі, правда, на вулиці. Давайте повторимо наші з вами іграшки. Toy. So what is this, Lisa?
It's a ball.
All together. It's a ball. It's a ball. It's a ball. Next one. What is it, Diana?
Doll.
It's a doll. Yes, it's a toy doll. Next one. Diana.
Train.
It's a train. Super. Train. Oh, what is it? It's a dangerous or not dangerous? Danger, not danger. Yes? If it is dangerous game, dangerous toy, ми з вами say danger.
Danger! 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 Danger!
Stop. Lego blocks. Yes, Lego blocks. Thank you. Lego blocks.
Danger!
Danger!
Danger! Danger!
Stop! Lady bear, super! Oh, and this? Danger!
quand vous êtes dans une école primaire en Ukraine, vous pouvez à la fois apprendre l'anglais et apprendre à vous méfier des jouets qu'on peut trouver dans la rue, surtout quand ils sont piégés. On est à Mykolaïv, au sud de l'Ukraine, à 26 km du front, est-il précisé. Et bonjour, Katerina Gornostai.
Hi, bonjour.
Qu'est-ce qui vous a amené à filmer la guerre en Ukraine depuis l'école, depuis la maternelle au lycée? En quoi est-ce que filmer l'école est pour vous une bonne manière, un bon angle pour raconter un pays en guerre? Et c'est Irina Sobchenko qui vous traduit mes questions et qui traduira vos réponses. Katerina Gornostai.
Насправді самі вчителі, тобто освітяни, це були ті, хто не змусили, а власне нас спонукали зробити це.
C'était les enseignants qui ont en effet initié nous ont poussé à initier ce projet.
Бо з початком повномасштабного вторгнення всі люди, в тому числі і вчителі, і в тому числі і освітяни, громадські організації збирали багато історій шкіл про те, як почалося вторгнення.
Puisque depuis le début de l'invasion à grande échelle, il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup d'organisations, des ONG, même des enseignants eux-mêmes qui ont documenté, qui ont fait la collecte des témoignages sur ce qui s'est passé dans la vie scolaire en Ukraine.
І ось така от організація звернулася до нас, і, власне, вони дуже хотіли, аби ці історії, які в тексті були збережені, перетворилися на кіно.
Et donc, une de ces organisations nous a contactés et ils ont voulu que ces histoires qu'ils ont transcrites dans les textes, qu'ils ont été aussi présentées à travers le cinéma.
Але в документальному кіно особисто мені цікаво побачити те, що відбувається тут і зараз. І тому, коли ми прочитали всі ці історії, зв'язалися з людьми, які є їх носіями, ми вирішили, що хочемо подивитися, як школа живе зараз, тобто в 2023 році, рік після вторгнення.
Mais parce que pour moi, en tant que réalisatrice en cinéma documentaire, c'est extrêmement important de travailler avec ce qui se passe ici et maintenant. Après avoir contacté ces enseignants et après avoir écouté leurs histoires et ce qui se passe, ce qui se passait dans leur vie en 2023, nous avons décidé de montrer l'actualité de l'école ukrainienne en 2023, un an après l'invasion à grande échelle.
Тому фільм вийшов ширшим, він вийшов про школу взагалі, і як великий організм, в якому є і діти, і вчителі, і він вийшов про встановлення нової нормальності, тобто певної звички до того, що війна триватиме довго і нам потрібно існувати в ній.
Et donc, c'est pour ces raisons que le film porte sur un sujet plus vaste. Il porte sur l'école en tant que telle, en tant qu'un grand organisme qui incorpore tant les enseignants que les élèves, leurs parents aussi. Et c'était important pour nous de montrer cette nouvelle normalité dans laquelle les élèves et les enseignants sont censés de vivre.
Oui, parce que votre film est tendu par cette question-là. Est-ce que l'école doit maintenir une certaine normalité ou est-ce qu'elle est là pour apprendre aux enfants à faire face à la guerre? Et vous-même, j'imagine, quand vous avez filmé, vous étiez entre ces deux pôles, entre montrer des enfants, même si c'est la guerre, mais ils continuent à vivre leur vie d'enfant, ou vous concentrer sur les moments où la guerre impacte leur quotidien, Katerina Gornostai. Et c'est toujours Irina Sobchenko qui vous traduit mes questions.
Да, тобто, sorry, I didn't understand the question like at the whole, so I mean...
Que filmer quand on filme des enfants pendant la guerre? Est-ce qu'il faut filmer la vie normale, quotidienne des enfants, comme si tout était, voilà, continué, la vie continue, ou vous concentrez sur les moments où la guerre impacte leur quotidien? Pendant ce temps-là, Ірина Собченко vous traduit ma question, pardon.
Добре, я спробую. Насправді, коли знімаєш документальне кіно, ти просто намагаєшся побачити, якою є реальність. Тобто ти її не конструюєш.
En fait, oui, je vais essayer de répondre à votre question. Quand on fait un cinéma documentaire, on est en fait, on essaie de comprendre plutôt la réalité que de la construire.
Тобто, як ви вже зазначили, ми дуже знайомі з темою шкіл, оскільки ми робили також ігрове кіно про школу, і школа – це, в принципі, універсальна тема. Тобто, всім знайома ця, цей процес.
Et comme vous l'avez bien dit tout au départ, que pour nous, pour notre équipe, le sujet de l'école était déjà bien connu. On a fait un film de fiction sur l'école et l'école, c'est un sujet en fait universel qui touche plusieurs aspects de la vie humaine.
Тому за основу ми взяли шкільний рік, в якому, звісно, є опорні точки, такі як 1 вересня, Новий рік, випускний. Ці речі знайомі у всьому світі.
Et c'est pour ça que nous avons pris pour notre base l'année scolaire qui se concentre autour des événements repères comme la rentrée, comme la fin de l'année scolaire, comme le nouvel an. C'est une structure qu'on connaît tout le monde dans le monde entier.
Звідси виникла мозаїчність цієї історії, і в кожному з цих подій ми намагались побачити, як контекст війни проступає на поверхню.
Et d'où vient ce récit un peu mosaïque de l'histoire que nous avons filmée. Et nous avons essayé de montrer à travers ce récit mosaïque comment ça se passe dans des différentes régions d'Ukraine, comment l'école ukrainienne vit aujourd'hui.
І, звісно, також ми бачили речі, які з'явилися зараз. Тобто вони стали новими, такими як, наприклад, ритуал хвилини мовчання, який відбувається щодня в школах, на кожному святі, будь-де зараз.
Et aussi, nous avons découvert les événements ou les rituels plutôt qui marquent cette nouvelle réalité, qui viennent d'apparaître avec l'invasion, comme par exemple les minutes de silence, la minute de silence qui se passe, qui est observée dans, qui est respectée tous les jours, tous les matins en fait dans chaque école et qu'on fait pendant toutes les fêtes scolaires.
Але у всіх цих, на всіх цих подіях я дуже рада була побачити, що діти все одно є дітьми, і вони все одно дуже живі, дуже справжні, і навіть попри війну вони діти.
Mais tout de même, malgré avoir filmé cette réalité de la guerre, j'étais très contente de voir que les enfants restent toujours des enfants, que ils vivent leur vie comme des enfants normaux et qu'ils sont pleins de vie, qu'ils sont joyeux et qu'ils restent eux-mêmes.
Alors vous parlez de la cérémonie des remises de diplômes, en voici une.
Це ваше життя, це для все для вас. Все зараз для вас. І заходячи сюди, мені згадалося, що ви майже весь цей час навчалися у війні. Війна триває вже 10-й рік. Хочу, щоб ви не заглядали в очі смерті, дивилися тільки в очі життя. Насолоджувалися цим життям кожної хвилини, кожної миті. Дихали цим повітрям. Покращували нашу Україну. Бо вам її відбудовувати.
C'est donc une cérémonie de remise de diplôme en plein air. Un officier de l'armée prononce un discours aux jeunes lauréats. Contrairement à ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Skandar Kopti dans les classes israéliennes, il n'est pas question de chanter le sacrifice, la mort, le combat. Et il lui dit « Je ne veux pas que vous voyez la mort en face. Profitez de la vie à chaque minute, à chaque instant. Rendez notre Ukraine meilleure, ce sera à vous de la reconstruire. » Et il y a un autre moment dans le film où une gradée va dire à des lycéens en classe « Je ne suis pas d'accord avec l'idée que les événements grave nous apporte du bon, ça ne fait pas de toi une personne meilleure. Plus tard encore, il y aura un chœur d'enfants qui va chanter combien la guerre est détestable. Une des questions qui traverse votre film, c'est comment dans un pays en guerre ne pas militariser entièrement la société, comment rester une société humaniste, même pendant la guerre. Je vais vous laisser, Irina Sobchenko, résumer ma question. Vous écoutez bien France Culture Plan Large. On est en train de traduire la question à l'oreille de notre invitée, Katerina Gornostai.
Я би сказала, що так. Ну, насправді, просто розумієте, коли настільки велика небезпека, ті люди, які звертаються до дітей, це не просто якісь військові, це вчитель, який викладає в цій школі.
Je dirais que je suis tout à fait d'accord avec cette idée et en fait on est dans une situation, ces enfants vivent dans une situation d'un grand danger. Et c'est les militaires qui parlent à ces enfants. Ce ne sont pas n'importe quels militaires, ce sont des professeurs, hein, des anciens professeurs de cette école.
Тобто це все дуже сильно переплетено. У цих дітей, в них, ну, в нас, я не знаю жодної людини в Україні зараз, хто не має справи з війною, так чи інакше. Чи має родичів, які там служать, чи вже загинули, чи волонтерить. Насправді, якби це, звісно, нам хочеться вберегти тих, хто зараз не воює.
Et en fait, tout est lié, tout s'entrecroise et je dirais que je ne connais personne en Ukraine qui n'a dont les proches ou les parents ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui n'était pas touché par la guerre. Et bien sûr que notre grand défi, c'est de protéger nos enfants, protéger nos générations à venir, et protéger ceux qui ne sont pas au front.
На війні зараз присутні старше покоління, тобто покоління, наприклад, моїх батьків, або трошки молодше, ніж мої батьки, і якраз вони кажуть, що це наша помилка, що ми допустили цю війну. Якби ми її не допустили одразу, спочатку, з 91-го року не допускали, йшли українським шляхом, проєвропейським шляхом, можливо, її би не було, тому вони там.
Les gens qui sont maintenant dans l'armée, qui se battent pour l'Ukraine, en majorité, ce sont des gens qui, des générations un peu plus âgées. C'est la génération, par exemple, de mes parents. Et beaucoup de ces Ukrainiens disent que c'est notre erreur. Nous ne devrions pas, nous aurions pu faire plus que cette guerre n'ait pas eu lieu. Nous aurions pu peut-être faire quelque chose pour que l'Ukraine soit, pour que l'Ukraine décide d'être pro-européenne, pour que l'Ukraine soit un État qui sait mieux se défendre, pour que nos enfants n'aient pas affaire à cette guerre qu'on a aujourd'hui.
Бо найгірше це передавати війну у спадок.
Le pire des pires, c'est de transmettre cette guerre à des générations à venir.
Mais il y a même un cours d'art qui se fait dans un abri anti-aérien, je crois que c'est à Kharkiv, et le cours continue pendant l'alerte. Et ils disent, notre tâche est de préserver toute la beauté. Est-ce que c'est aussi la tâche que vous vous donnez, Katerina Gornostai? Est-ce que c'est pour ça que votre film est si coloré, que l'image est si chaude?
Так, ми це дуже хотіли зробити. Ми просто школа – це середовище, в якій, ну, коли ти робиш ігровий фільм, наприклад, ти намагаєшся як ніби бути з кольорами чіткіше. Ти вибираєш певну кольорову гаму, які ти слідуєш. Документалісти – ці всі кольори справжні, ті, які ти зустрічаєш в світі.
Oui, tout à fait. C'était notre intention. Vous savez, quand on travaille sur un documentaire, on ne choisit pas les couleurs. À la différence du cinéma fictionnel, où on a le contrôle sur les couleurs, on peut les choisir. Et donc, on montre la réalité telle qu'elle est.
І тому ми, коли побачили це, були вражені цією кольоровістю. Ми дуже хотіли зберегти і підкреслити її за допомогою кольорокорекції навіть. Аби цей фільм вийшов максимально не про жертв війни, а максимально про тих, хто продовжує жити і творити під час війни.
Et donc, quand nous avons vu toutes ces couleurs, nous étions frappés. C'était bien sûr notre intention de préserver, de montrer ces couleurs, cette diversité, cette vie, et de montrer la vie, non pas des victimes, mais des gens qui continuent à vivre à travers la guerre.
І так само і музика в цьому фільмі. Мені дуже не хотілося ні кольором, ні музикою не робити це як певні якісь такі елементи, які зроблять цей фільм ніби як фоном. Тобто музика, фон, який дає настрій, це не була не наша історія. Так само і колір, який був би притлумлений і такий темний, це також не наша історія. Ми дуже хотіли, щоб музика була персоналізована, колір був яскравий, і фільм був про життя.
Et c'est pareil pour la musique d'ailleurs, parce que c'était pas notre idée au départ d'utiliser ni la musique, ni les couleurs, ni le décor comme les éléments de fond. Nous voudrions plutôt que les éléments deviennent expressifs, qu'ils deviennent les personnages eux-mêmes et qu'ils parlent pour eux-mêmes.
Stan zimno you be Танет стан Чорний колір то моя вуаль Я дозволю знай зазирнути під мою Вуаль там журавлі летять у синю даль і знають вони, де є моя і де твоя печаль у синих моїх очах.
Merci Katerina Gornosta, il faudra attendre mercredi prochain pour découvrir Première Classe, et c'était, je crois que je l'ai dit plusieurs fois, Irina Sobchenko qui traduisait vos propos. Vous écoutez France Culture, plan large, et il y a dans vos salles encore quelques autres luttes.
El cielo que la tortilla se vuelva cuando quiera Dios el cielo que la tortilla se vuelva que la tortilla se vuelva que los pobres coman pan y los ricos mierda mierda que la tortilla se vuelva que los pobres coman pan y los ricos mierda mierda.
C'est par ce chant populaire de la guerre d'Espagne, la Hierba de los Caminos, que François-Xavier Drouet, le réalisateur du Temps des Forêts, introduit en le chantant lui-même, s'il vous plaît, son nouveau film L'Évangile de la Révolution. Alors ce n'est pas en Espagne, mais dans quatre pays d'Amérique latine, le Brésil, le Salvador, le Nicaragua et le Mexique, que le cinéaste est revenu sur ces décennies des années 60 au tournant du siècle, qui ont vu des croyants, des hommes d'église soutenir, voire rejoindre les révolutions marxistes, qui tentaient, avec plus ou moins de succès, de déposer des régimes dictatoriaux ou niant les droits des peuples à posséder la terre. C'est un peu oublié aujourd'hui, mais cette alliance, a priori improbable, entre catholiques et communistes, reposait sur un appareil théorique et métaphysique passionnant, la théologie de la libération. François-Xavier Drouet en a retrouvé de formidables archives filmiques et rencontré celles et ceux des protagonistes qui ont survécu à la féroce répression menée par les tyrannies locales, avec le soutien de la très césariste hiérarchie de l'Église romaine, le pape Jean-Paul Jean-Paul II et son successeur Benoît XVI en premier lieu. Comment des pauvres ne se voyaient plus comme des objets de charité, mais comme les sujets de leur libération, c'est ce que raconte ce film, qui, s'il ne réinvente certes pas le cinéma documentaire, n'en reste pas moins toujours passionnant et toujours pertinent aujourd'hui. Comme ce film, venu tout droit de 1989 et dont on a déjà quelque peu parlé dans cette émission. Car oui, les mots sont toujours aussi importants.
Ma che dice?
No, forse ho toccato un argomento che non...
No, no, no. L'espressione, non è l'argomento, no, l'argomento è l'espressione. Preferisce... Matrimonio a pezzi, ecco, ma come parla?
Rapporto in crisi, però è così kitsch.
Kitsch. Ma dove l'ha andata a prendere questa espressione? Senta, dove l'ha andata a prendere?
Io non sono alle prime armi.
Alle prime armi, ma come parla?
Anche se il mio ambiente è molto cheap.
Il suo ambiente è molto?
È molto cheap.
Come parla?
Senta, ma lei è fuori di testa!
E tu? Oh, come parla? Come parla? Le parole sono importanti! Come parla?
Même si ce n'est pas très bien de gifler celle qui vous interviewe, on ne s'en lasse pas de cette colère d'un député communiste qui tente de retrouver la mémoire après un accident de voiture. Michele Apicella, pour ne pas le nommer. C'était en 1989, la gauche européenne était en plein désarroi, déjà, alors que le mur de Berlin s'apprêtait à tomber. De ce marasme, Nanni Moretti avait tiré un de ses chefs-d'œuvre à l'époque où il ne posait pas encore au grand cinéaste mondial pour décrocher des récompenses dans les grands festivals. C'était Palombo Bella Rossa, et on vous en a longuement parlé dans Plan Large la saison dernière avec le metteur en scène de théâtre Mathieu Bauer qui en avait tiré une version scénique. Vous pouvez enfin découvrir et redécouvrir ce grand puzzle tragicomique et formidable partie de waterpolo aussi qu'est Palombella Rossa, puisqu'il est ressorti ce mercredi en version restaurée. Et on ne se lasse pas non plus d'en réécouter la bande originale.
Capire meglio la mia essenza. Questo
Si vous voulez prolonger ces plaisirs italiens et passer un long week-end à Rome, la Villa Médicis y organise pour la 5e fois son festival du film. C'est du 10 au 14 septembre avec une très prometteuse compétition qui, comme toujours, explore les liens entre cinéma et art contemporain. Il y a aussi des cartes blanches confiées aux trois jurés de la dite compétition, Alain Ghirodi, Guslagi Malanga et Henri Sala, et la projection du court-métrage consacré par Alice Diop à la Vénus Noire. Pour le cinéma américain, c'est bien sûr depuis hier et jusqu'au 14 septembre à Deauville qu'il faut aller, histoire de découvrir ce qu'il y a encore de vivace chez les cinéastes indépendants d'outre-Atlantique et de se replonger dans les riches et belles filmographies de Paul Newman, célébré pour son centenaire, et Kim Novak, qu'on entendra, si tout va bien, dans Plan Large la semaine prochaine. Et puis, de l'autre côté du port, c'est au même moment le court-métrage qui est exploré à Trouville dans le festival Off-Court. Sur les plateformes, et en particulier sur la cinémathèque en ligne des cinéastes, c'est la formidable Marie Lozier qui, la saison dernière, était venue nous parler de son non moins formidable Pictures Goes Bananas, qui est la cinéaste invitée du mois et qui propose donc la liste étonnante de ses 50 films préférés. Chez Tenk, la plateforme du documentaire, Tenk a de son côté donné les clés de sa programmation au cinéaste et acteur Mathieu Amalric. Il a déniché 5 films dans le catalogue de documentaires sur grand écran, dont 3 de Dominique Cabrera. Et puis sur Tenk, on rend aussi hommage, bien sûr, au regretté Jean-Pierre Thorne, décédé cet été. Retour à présent en Italie, histoire de voir ce qui, cette année, a agité la lagune de Venise.
Action. I think what you do is magic.
You know how difficult it is to be yourself? You try it.
Thanks a lot. Jay Kelly.
I created death.
I had determined that the memory of my... Die with me.
Pourquoi as-tu tué cet homme? Pourquoi avoir brisé ce bonheur qui nous attendait?
Pourquoi étiez-vous armé d'un revolver?
Monsieur le Président, Meursault est innocent.
미국에서는 해고를 도끼질한다고 한다면서요. 한국에서는 뭐라 하는지 아세요? 넌 뭐하지야?
엄에 essere sospesi nel tempo.
This guy is the best he has ever seen.
Please welcome in his octagon debut, Mark Coe.
No contract, no money,
no money.
All we've lost, all that's been done to us. We're saying that right again. Greetings.
Un petit aperçu de quelques-uns des films en lice cette année pour le Lion d'Or. Ils sont signés Noah Baumbach, Guillermo del Toro, François Ozon, Park Chan-wook, Gianfranco Rosi, Benny Safdi et Yorgos Lanthimos. Il y a encore côté français Valérie Donzelli et Olivier Assayas. On n'oublie pas chez les Américains Jim Jarmusch et Catherine Bigelow. Deux Hongrois, Laszlo Nemes et Ildikó Egyedi. Et un film qui a manifestement bouleversé le public du Lido. 23 minutes d'ovation après sa projection, qu'on dit favori pour le Lion d'Or ce soir, La voix de Hind Rajab de la Tunisienne Kauter Benania. Tous ces noms donnent à cette 82e Mostra des aires de compétition canoise. Le Père Noël est passé à la Mostra, avez-vous écrit Sandra Onana dans un de vos comptes rendus du festival dans Libération, pour votre première fois sur la Lagune. Alors, qu'avez-vous trouvé sous le sapin, Sandra ?
C'est une programmation qui ne s'est pas contentée d'aligner les promesses de films avec casting 5 étoiles. On sait que c'est une des forces de la Mostra, qui est toujours en rivalité de prestige avec Cannes. Mais bien au-delà de ça, les films avaient des choses à raconter. Donc oui, c'est un peu Noël. C'est émouvant de voir un nouveau film de Jim Jarmusch, par exemple. C'était Father, Mother, Sister, Brother. Donc trois courtes histoires sur les relations entre des parents et leurs enfants adultes qui vont se répondre entre elles avec des gags qui font toujours l'effet de rimes internes comme à l'intérieur d'un poème. C'est de la comédie avec trois fois rien, hormis quand même Pluie de stars et un partenariat Yves Saint Laurent. Et puis le principe du film, c'est d'étirer des moments de blanc entre les personnages, d'étirer le malaise entre eux comme un élastique jusqu'à ce que quelque chose craque. Alors qu'est-ce qui craque, c'est toute la question. On ne sait pas vraiment, c'est peut-être le régime d'apparence des réunions de famille, c'est peut-être l'émotion aussi. Il se trouve en effet que le film qui a été annoncé comme l'onde de choc à la Mostra, La voix de Hind Rajab de Kauter Benania, est celui qui est pressenti pour le Lion d'Or. Ça pourrait être plus compliqué que ça. Il paraît, là, les échos actuellement sont ceux de délibérations extrêmement tendues. C'est en tout cas un film qui retrace l'enfer de cette petite fille Gazaoui tuée par l'armée israélienne en janvier 2024. C'est un huis clos dans le centre d'appel des humanitaires du Croissant Rouge palestinien. Le choc étant celui-ci, ce sont des véritables enregistrements des appels passés aux secouristes que l'on entend intégrer à la fiction. Donc là, le public se retrouve forcément en position de négocier avec l'insoutenable de ces documents sonores tirés du réel, alors que les procédés sont ceux d'un thriller à suspense. C'est un peu les mêmes que Catherine Bigelow en compétition. Ça donne un objet de rupture complet dans un festival, comme un bug dans le logiciel critique qui déborde un peu toutes les grilles. On n'a pas vraiment le mode d'emploi pour savoir quoi faire de ça quand on en sort. À voir si donc ça inspirera un palmarès engagé du jury d'Alexander Payne à l'arrivée. Un mot sur les films français, quand même. Il y en avait trois dans la course, tous des adaptations littéraires. C'est marrant. À pied d'œuvre de Valérie Donzelli, c'est un vrai virage de style dans son cinéma, où elle met en sourdine la fantaisie qu'on lui connaît, ses jeux avec l'artifice, avec le lyrisme. Elle se concentre cette fois sur un personnage d'écrivain déclassé, Sébastien Bouillon. Et on peut quasiment parler d'un geste janséniste de Donzelli. Elle fait un film sur la routine de l'artiste, sur la répétition, sur le tâtonnement. Ça demande extrêmement de finesse, en fait. La dernière à avoir fait ça, c'était Kelly Reichardt avec Showing Up. Ça peut taper dans l'œil du jury, plus ou moins que les films d'Olivier Assayas et François Ozon, qui sont avec des projets peut-être plus flashants. Ils avaient d'ailleurs un point commun. On est nombreux à l'avoir remarqué pendant cette Mostra. Il y a beaucoup de films qui se sont passionnés pour des figures de monstres. Pas seulement les monstres à la Frankenstein de Guillermo del Toro. On a plutôt vu des figures de monstres ordinaires, c'est-à-dire le petit personnage de l'ombre, les petites gens qui, à un moment donné, vont s'avilir par la violence ou tenter de reprendre le contrôle du système. C'était le cas dans le pénible nouveau film de Park Chan-wook sur un chômeur serial killer. C'était le cas dans l'adaptation 13 euros pudding du match du Kremlin par Olivier Assayas en anglais. Bon, on se dit un thriller sur l'ascension au pouvoir de Poutine du point de vue d'un conseiller politique, ça devrait donner de l'orfèvrerie à la Aaron Sorkin, hein, le scénariste à la Maison Blanche. Bah, sauf que ça demandait d'incarner quand même cette méditation sur le pouvoir autrement que par le biais des dialogues, sans quoi on obtient un film assez bavard. Bon, puis la banalité du monstre, on l'a retrouvée forcément dans la relecture de L'étranger de François Ozon d'après Camus. Tout le monde connaît l'histoire, employé de bureau dans l'Algérie française, enterre sa mère et tue un arabe en oubliant de ressentir quoi que ce soit. Ça donnait bizarrement un film très chic, ce coup-ci. Il y a ce noir et blanc, très chiadé, des acteurs qu'on n'a jamais vus aussi beaux. Et puis surtout, cet échec de trouver une perspective signifiante sur l'Algérie française. Savoir quoi faire de l'altérité indigène en 2025, c'est quand même compliqué quand on relit Camus. Bon, ce qui nous amène quand même au bravo et au bisou pour Gus Van Sant. Dead Man's Wire, c'était encore l'histoire d'un homme ordinaire qui se défend d'être le monstre que le système a fait de lui. C'est tiré de l'histoire vraie en 1977 de la prise d'otage d'un patron de compagnie d'assurance par un client surendetté à Indianapolis. On pense forcément au meurtre commis par Luigi Mangione sur un PDG d'United Health en 2024. Ce qui impressionne, c'est vraiment la note que le film arrive à tenir entre le burlesque et la tension. Dans la lignée d'un après-midi de chien de Sidney Lumet, d'ailleurs on retrouve Al Pacino à la distribution. Parce que certes, c'est dur de trouver comment regarder le preneur d'otage, nous faire l'aimer, nous faire le craindre. C'est Bill Skarsgård qui le joue comme un clown un peu instable, par ailleurs groupie d'un DJ de radio de soul local. Mais c'est dur surtout de savoir comment regarder le patron et le regarder comme l'homme qui pleure avec l'arme sur la nuque, mais aussi comme le vrai monstre du système. Et ça, Van Sant, il sait faire. Et Dead Man's Wire, c'était un peu le film synthèse de cette édition, avec l'Amérique comme grand protagoniste. Et pour ne rien gâcher, la bande originale est super.
On verra donc ce soir si Alexander Payne et ses jurys auront réussi à s'entendre et auront partagé votre Noël vénitien. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Guillaume Ficheux. L'émission a été préparée par Anne-Vanessa Prévost et réalisée par Anne-Laure Chanel.